Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro.
J'accueille aujourd'hui avec un très grand bonheur Twini, une violoncelliste extraordinaire, vraiment charmante, une parisienne. Bonjour Twini.
Bonjour Marie-France.
Qui a la gentillesse de quitter Paris. Peut-être c'est pas toujours mal d'ailleurs d'aller un petit peu s'aérer en province.
Ça fait beaucoup de bien.
Mais la voilà dans nos studios du Rocas de Radio Grand Ciel et j'en suis vraiment très heureuse. Twini, nous allons parler aujourd'hui davantage de ce que vous appelez votre véritable métier, qui est en fait une sorte de don en continu de votre art pour soulager la misère humaine. Est-ce que c'est bien résumé ?
On peut dire ça comme ça, oui. Effectivement, c'est l'intention que j'y mets. C'est tout à fait...
Mais c'est une vocation.
Absolument, oui. Je ressentais ça déjà quand j'étais petite. Et puis, progressivement, au fur et à mesure de mon cursus artistique, j'ai eu vraiment le sentiment que j'avais besoin d'aller porter la voix du violoncelle ailleurs que dans les salles de concert classiques, on va dire. J'ai donc contacté une association pour cela, qui m'a formée à l'accompagnement de personnes en fin de vie, pour que je puisse venir jouer auprès de personnes en fin de vie dans les services de soins palliatifs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à intervenir dans les hôpitaux. J'ai commencé à l'époque à Lyon, parce que j'habitais à Lyon, et j'ai été formée par une association magnifique qui s'appelle Albatros, qui accompagne...
Ce bel oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a des trop grandes ailes,
exactement,
c'est ça, non ?
Exactement, oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait, ouais.
Et en fait, c'est fantastique parce que, d'ailleurs, ce nom est très beau, mais vous les aidez, en fait, à s'envoler pour l'au-delà.
C'est très joliment dit. En tout cas, je ne sais pas à quoi je sers, mais en tout cas, je sais que ma présence, elle fait sens. En tout cas, c'est ce que les patients et les familles envoient quand ils entendent du violoncelle.
Là, c'est la souffrance ultime dans ces services. Mmh. C'est l'extrême bout de la vie.
Oui.
Et puis, pouvoir franchir ce cap qui doit être extrêmement difficile avec vous, ça doit être un soulagement fantastique.
J'espère. Finalement, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Je suis juste là pour attester d'une présence, en vérité, qui se fait avec le violoncelle. Et là où les mots peuvent être limités dans ces moments-là, surtout quand on ne connaît pas très bien la personne, le violoncelle peut prendre une place plus pertinente, je pense, et accompagner avec apaisement, là où on trouverait des mots un petit peu, peut-être un peu bancal. En tout cas, moi, je me sens très à l'aise avec le violoncelle pour être là dans ces moments. Alors évidemment, il y a les services de soins palliatifs, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres services qui sont plus dans la vie encore, et où il y a de la souffrance, il y a de la douleur, etc. Mais où le violoncelle peut permettre d'insérer de la joie aussi.
Insérer de la joie et, ouais, sans doute soulager la douleur.
Oui, justement.
Parce que quand on apprécie la musique et qu'on prend plaisir à l'écouter, bien entendu, ouais, on pense à autre chose.
Complètement. Oui, c'est ce qu'on dit. En tout cas, les patients disent « Oh bah tiens, j'ai reconnecté avec des souvenirs quand j'étais enfant. Ah, ça me rappelle. » Du coup, c'est vraiment un terreau très fertile pour déjà créer une connexion avec la personne, qu'elle puisse exprimer des choses joyeuses de son histoire personnelle, autre en tout cas que les relations techniques, médicales qui peuvent avoir lieu dans les hôpitaux. Et ça, je trouve ça...
Mais ils échangent avec vous, ils vous en parlent de leurs ressentis ?
Complètement. Alors,
d'abord, il y a leur sourire, j'imagine.
Oui, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, il y a la curiosité parce que souvent, quand je vais dans les services, je ne suis pas annoncée. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que ça crée une sorte de...
Il y a l'effet de surprise.
Exactement.
Tiens, voilà Marcel, parce que votre violoncelle s'appelle Marcel.
S'appelle Marcel, donc.
Marcel, le violoncelle.
Donc quand Marcel arrive, et moi derrière, et que voilà, la musique commence à s'installer dans le service, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des têtes qui y passent avec un air curieux, et puis avec un sourire en disant, enfin qui dit en tout cas, ah bah tiens, ok, c'est pas commun, mais ça fait du bien. Et puis il y a aussi, moi je le vois souvent, des patients qui en général ne sortent pas de leur chambre, parce que voilà, ils ont des pathologies pathologies qui sont les leurs, comme lourdes.
Bien sûr, ils veulent pas...
Mais la musique les fait sortir de la chambre. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui disent « Mais ce monsieur-là, ça fait une semaine qu'il ne sort pas de sa chambre. » Et là, il est sorti avec son déambulateur. Il est allé tout au bout du couloir pour venir vous voir. Et c'était l'objectif, son objectif de, voilà, du moment. Et il a passé un bon moment. Il a reconnecté avec ses émotions.
Donc, que vous disent-ils ?
Ah, il y a plein de choses.
Est-ce qu'ils applaudissent ?
Oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont transmises aussi par le non-verbal, à vrai dire. Mais il y a des choses qui sont aussi très bien exprimées. En général, c'est le soulagement. C'est « Ah, ça fait du bien ». Ça revient tout le temps. « Ça fait du bien », « Ça m'a fait penser à autre chose ». Ou parfois, il y a moins de douleur aussi. Parce que l'esprit s'est posé sur autre chose que justement la douleur. En fait, moi, j'ai aussi une formation de sophrologie. Je fais de la sophrologie auprès des patients, notamment.
Qu'est-ce que c'est la sophrologie ?
Alors, en fait, c'est finalement, on peut résumer ça à un travail de reconnexion entre l'esprit et le corps. Pour que, finalement, apaiser... Or, ça peut être plein de motifs différents, mais en général, c'est pour apaiser les tensions, apaiser l'anxiété, les douleurs.
Parce qu'en fait, on ne peut pas s'apaiser soi-même s'il n'y a pas de connexion entre l'esprit et le corps. Il faut apprendre à reconnaître les sensations de son corps.
Oui, c'est vraiment le principe, et en tout cas, de créer du lien entre les deux. On part du principe qu'avec l'esprit, on peut tout à fait agir sur les mots du corps, ou les mots aussi tels que l'anxiété, la dépression. Moi, je travaille en fait en service de psychiatrie aussi, où je propose des ateliers de groupe pendant lesquels je propose à la fois de la sophrologie et du violoncelle. Et j'appelle cet atelier « Voyage sonore ». On commence en général par prendre conscience du corps, de la respiration, vraiment être auprès du au plus
très
près
importante,
des
la respiration.
La respiration, c'est la base.
C'est ce qui est prôné dans le yoga, je pense.
Oui, tout à fait. Et à partir de cette respiration, on va aller voyager un petit peu dans le corps, voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des ressentis, il y a des douleurs. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait des petites visualisations aussi pour permettre aux personnes d'envisager, d'imaginer des espaces un peu plus heureux, un peu plus lumineux parfois. Et puis, je termine avec le violoncelle. Et en général, ce qui est le plus apprécié, c'est le moment au violoncelle où on me dit « Ah ben là, j'ai voyagé ». Et là, les patients relatent des images de voyage, souvent des retours de...
C'est très onirique, finalement.
Complètement. J'aime beaucoup cet univers onirique qui est créé par la musique, par le violoncelle spécifiquement, et puis aussi amené par la voix, c'est-à-dire on peut vraiment accompagner avec... en sophrologie, on utilise beaucoup la voix pour ça. Créer cette connexion, cet équilibrage entre le corps et l'esprit, finalement. Et c'est ça que fait l'art, pour moi. C'est finalement comment relier le corps et l'esprit. Enfin voilà, l'art matérialise cette harmonie pour moi.
Et ça doit être en plus très gratifiant quand vous les voyez aller mieux.
Oui.
Ah, même si peut-être ça ne dure pas longtemps, mais c'est quand même précieux ces instants qui échappent à la souffrance.
Et, c'est très précieux.
Et c'est très gratifiant pour vous parce que vous savez que c'est vous qui faites ça.
En tout cas, je crée cet espace. Et ce que je leur dis, c'est pas moi en tant que personne, c'est l'espace qui est créé. Et ce qu'eux veulent bien mettre dedans. Donc, s'ils veulent...
Oui, il faut aussi qu'ils participent.
Oui, inconsciemment ou pas. C'est-à-dire, c'est une question de lâcher prise aussi. De se dire, ok, je me laisse emporter par les sons, par la musique.
Dans votre voyage.
Dans le voyage. Ah. Et ça peut être très agréable, effectivement, dès lors qu'on se laisse un peu voyager, justement, bercé par la musique.
Alors, est-ce que cette sophrologie est prise en compte par les 10 associations médicales, les hôpitaux et autres ? Qui vous demande en fait d'intervenir. La sophrologie est une partie intégrante de votre métier.
Oui, tout à fait. Alors, je ne l'utilise pas toujours, c'est-à-dire j'ai vraiment deux activités. Cette activité sophrologie et musique, c'est un atelier en groupe avec des patients déterminés à l'avance qui viennent chaque semaine pour avoir leur séance de relaxation.
Ça se passe où ?
Alors là, je travaille dans un centre médico-psychologique à Boulogne-Billancourt. Et à Garches également, j'ai deux...
Avec les polytraumatisés, ça doit être extraordinaire.
Alors, oui. Alors ça, cet atelier, je le fais pour des personnes qui souffrent de troubles psychologiques uniquement.
Mais ça peut être après un accident, après...
Bien sûr, oui. Mais effectivement, les soucis psychologiques sont multiples, c'est-à-dire ça peut être... Il peut y avoir aussi des problèmes physiques et des maladies, des pathologies autres qui s'accumulent en plus des soucis psychologiques. C'est sûr que la sophrologie et le violoncelle arrivent en tout cas à communiquer avec des espaces qui ne sont pas encore touchés, en tout cas que je trouve lumineux. En tout cas, C'est un peu ma passion, c'est d'aller chercher l'espace qui est encore lumineux à l'intérieur de la personne pour que la personne puisse retrouver ses ressources propres et puisse trouver les outils dans sa vie pour aller mieux d'elle-même, en fait. C'est vraiment ça.
C'est en fait une curiosité extraordinaire pour aider son prochain que vous avez.
Oui,
effectivement. Au-delà de notre métier, c'est que
oui.
C'est quand même une vocation.
C'est une vocation, oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce qui, moi, me porte. C'est ce qui me fait du bien aussi, parce que j'avoue que ça me fait du bien. Et j'y trouve énormément de joie. Donc,
oui, voilà, mais il vous faut quand même une certaine force d'âme, parce que vous vous confrontez à des personnes qui sont souffrantes.
Oui, on me dit souvent...
Et vous devez prendre, peut-être, oui. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais une certaine distance quand même, parce qu'il ne faut pas que vous vous laissiez envahir par tout ça.
Oui, tout à fait. C'est la question qu'on me pose souvent, à vrai dire. C'est comme si mon violoncelle me protégeait, en quelque sorte. J'ai l'impression que symboliquement, je suis protégée comme par un bouclier, puisque je suis placée derrière mon violoncelle, et le violoncelle fait un peu le travail à ma place. Je le ressens un peu comme ça.
Un bouclier coûteux. Il ne faut pas qu'il prenne de flèches, hein.
Je crois
que c'est préférable.
Mais jusque-là, il a été protégé, tout va bien, et moi aussi. En réalité, c'est un échange, c'est pas unilatéral. Je ressens beaucoup de choses, je prends beaucoup de choses de ce qu'on me donne aussi. Il y a beaucoup d'amour, en réalité, de ce qui émane des personnes. Donc, moi, ça me nourrit beaucoup. Et c'est ça qui me fait avancer. Sinon, je pense que j'aurais pas continué.
C'est formidable. Voilà. Alors, à l'autre bout de la chaîne, de l'âge, vous faites aussi des interventions chez les enfants. Vous me parliez de services où les enfants cancéreux, non, c'est pas ça?
Non, pas pour l'instant. Mais ça peut l'être, peut-être bientôt. Là, justement, je vais commencer à travailler pour la Ligue contre le cancer, qui me propose d'intervenir pour plusieurs hôpitaux dans lesquels eux sont déjà. Alors peut-être que
Dans lesquels il n'y a pas de service dédié en pédiatrie
pour l'instant, je ne sais pas.
Mais par contre, oui,
ça pourrait. Mais ça, ce serait...
Ce sont des adultes.
Ce sont des adultes pour l'instant uniquement. Mm-hmm. Mais c'est sûr que les services de pédiatrie, il y aurait énormément de choses à faire avec eux, avec les enfants. Oui. Et je serais vraiment ravie d'ouvrir cette porte-là aussi.
Et quelquefois même d'ailleurs avec les enfants et leurs parents qui seraient présents
dans
le service.
Oui, parce qu'en vérité, c'est pas seulement un patient que l'on vient soigner, c'est vraiment tout un microcosme, c'est tout son univers familial, social.
Et Dieu sait si les parents ont besoin eux aussi de réconfort et de...
Oui, tout à fait.
C'est très louable. Alors donc, la Ligue contre le cancer, vous avez d'autres, la PHP, on l'a déjà dit, et des maisons de retraite, donc, mais privées, publiques ou seulement les publics?
Les deux. J'ai les deux, tout à fait. Et j'aime beaucoup aller en maison de retraite. Je trouve que les personnes âgées ont tellement de choses à dire. Ce sont des livres ouverts du moment qu'on les titille au bon endroit et la musique arrive bien à jouer ce rôle-là. Et puis c'est très varié parce que selon les histoires des personnes, on a des demandes. Enfin, bon, en tout cas, moi, j'ai des demandes en classique, en opéra, en variété. Vraiment des choses très variées. Et du coup, ça me pousse
à... Et vous jouez tout ça.
C'est ça. Donc, je prends toutes les suggestions et puis ça augmente mon répertoire de musique. Et chaque semaine, j'apprends des nouvelles musiques. Et je cherche à chaque fois des suggestions. Je leur dis, dites-moi ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimeriez écouter. Et d'ailleurs, depuis...
Vous devez avoir un panel de répertoire extraordinaire.
J'ai pas mal de morceaux à mon actif. Mais j'adore jouer. Et puis surtout, je joue par cœur. Et ça, c'est une nouveauté par rapport au parcours classique que j'ai eu. C'est qu'aujourd'hui, j'apprends tout par cœur. Et ça me permet aussi d'être en contact visuel.
Ça nécessite quand même une super bonne mémoire.
Oui, c'est une autre mémoire, puis ça va plus vite avec le temps. Je ne sais pas comment la mémoire est faite à ce niveau-là, mais...
Un muscle, paraît-il.
C'est ça, c'est de la gymnastique. Et en tout cas, j'aime beaucoup parce que ça donne... On n'est plus derrière un pupitre à lire une partition. Tout ça, ça s'est évacué et j'aime avoir le contact visuel avec les gens. Donc quand je joue, j'aime bien regarder les personnes qui sont en face de moi et leur transmettre ce qui vibre de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire.
Alors, les émissions Twini que nous enregistrons en ce moment vont passer juste avant Noël. Et je pense que c'est un cadeau merveilleux que vous faites à nos auditeurs pour ces fêtes de fin d'année, parce que vous êtes fantastique. Je vous trouve fantastique, très intéressante, très passionnée. Et vous nous faites entrer dans quelque chose qui fait du bien, en fait. Alors ça, c'est faire formidable par les temps qui courent. Oui. Un peu de bonheur, c'est, et vous nous offrirez d'ailleurs pour terminer cette émission, le prélude de la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Et Philippe Maillard et Roland Richard, qui enregistraient aujourd'hui cette émission, nous faisaient remarquer que c'était le morceau de Rostropovitch.
Oui, qu'il jouait au moment de la chute du mur de Berlin, donc c'est resté au niveau historique dans les annales.
Tout le monde se souvient de cet instant, se souvient de là où on était, en fait, au moment où on a vu Rostropovitch jouer ça. C'était, mais bon, moi j'ai pleuré, mais enfin beaucoup l'ont fait aussi, certainement. C'était tellement poignant. Et puis cet homme, qui était déjà plus très jeune, avec son Marcel à lui, son violoncelle chéri, et qui sortait des sons sur ce... Enfin, c'est pas humain, quoi. Devant ce mur à moitié tombé, plein de tags et... Mon Dieu, quel bonheur! Est-ce que vous l'avez vu, vous?
Je n'ai pas eu le bonheur de le rencontrer.
Vous étiez trop jeune.
Je pense qu'on s'est un peu croisés, oui, au niveau de la génération. Mais je crois que c'était...
Et le moment à la télévision, vous l'avez vécu ou pas?
J'étais trop jeune.
Eh oui, voilà, c'est ça.
Mais on me l'a maintes et maintes fois compté. Et il a fait partie de ma vie très tôt, parce que c'était un des premiers CD que j'avais, qu'on m'a offert à l'époque. Et c'était Slav Rostropovitch qui jouait. Et c'était une de mes premières icônes au violoncelle que j'ai eue toute petite, oui.
Ça, c'est merveilleux. Donc, le prélude de la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, et ça, c'est un moment absolument inoubliable, enfin pour moi en tout cas. C'est la première fois qu'on joue du violoncelle dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Ça, nous n'oublierons pas, et nos auditeurs non plus. Alors, revenons maintenant au jazz, puisque vous avez connu Jean-Charles Acquaviva, pianiste, compositeur, et c'est la raison pour laquelle vous êtes maintenant dans le jazz rétro. Avec cette After the Rain et Sunrise, deux morceaux extraordinaires qui sont visibles sur YouTube. On peut les acheter sur quelle plateforme ?
Oh, ils sont disponibles sur Spotify, sur Deezer, enfin toutes les plateformes de streaming. Comme
donc, beaucoup, beaucoup de succès parce que ce sont deux mélodies merveilleuses. Est-ce que vous envisagez, Tuni, de faire encore autre chose qui sorte vraiment du classique ?
Pour l'instant, ça n'est pas encore dans les bacs. Mais oui, je suis ouverte en tout cas à tous les projets qui puissent...
Donc vous attendez les propositions ? Ou bien est-ce que vous connaissez plusieurs musiciens ? J'imagine que vous connaissez des musiciens.
Oui.
Qui soient tout à fait d'accord pour aller plus loin que le néoclassique de Jean-Charles avec vous.
Oui, en tout cas, je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais... ma fibre, c'est vraiment des musiques qui font du bien au cœur et à l'âme. Voilà, ça c'est la constante qui génère de la joie en vérité.
Donc pas le heavy metal, j'imagine. Nous allons
alors
sortir.
Peut-être que une version actuelle du néo heavy metal, je ne sais pas, pourrait
mais bien
être.
Sûr.
Je ne sais pas. Non, en tout cas, des choses qui font du bien, voilà, qui nous ramènent à des choses, à notre intériorité, à des choses profondes.
Est-ce qu'il y a des mélodies qui vous ont particulièrement touché ? Moi, c'était Podan avec la musique extraordinaire de Michel Legrand. Ou... Mais ça aussi, c'était très onirique d'ailleurs.
Oui, oui.
Mais il y a vraiment des morceaux comme ça qui frappent.
Oui.
Et quelquefois, pas les morceaux auxquels on s'attendrait. Je me souviens d'une soirée que j'ai passée dans les jardins de Versailles, du château de Versailles, en face de l'orangerie. Il y avait, chers auditeurs, vous connaissez déjà l'anecdote, je vous l'ai déjà racontée, mais c'est pour Tuini. J'assistais à ce concert, Michel Legrand et Nathalie Dessay, wow, qui chantaient sur sa musique, une grande cantatrice que j'aime énormément aussi. Et Michel Legrand était au piano. Et il y avait en face une tribune avec 1000 personnes dedans, dont nous étions, ma fille et moi, Virginie. Et à un moment donné, bon, les gens étaient évidemment très très heureux d'être là, ils adoraient tous, bien sûr, Michel Legrand, mais à un moment donné, il a commencé les premières notes du Keg d'amour de Podan. Et à ce moment-là, la foule entière s'est levée sur les gradins, j'ai eu peur de tomber d'ailleurs, et tous nous avons chanté. Mais alors ça, ce sont vraiment des émotions extraordinaires. Est-ce que vous pensez que la musique classique aussi peut donner ce genre d'émotion ?
Ah, mais bien sûr.
Vous l'avez déjà ressenti ?
Finalement, c'est assez peu en lien pour moi avec le genre. C'est plutôt l'intention qui est donnée, peu importe le support.
Une espèce de communion.
Complètement.
Mais instantanée, en fait. C'est incroyable.
Oui.
Quoi.
Le pouvoir de la musique là-dessus, c'est assez fou.
Et à la fin, Michel Legrand se levant de son piano, de son tabouret, saluant la foule et l'applaudissant. Nous étions très, très flattés.
Non, c'est magnifique.
Vrai que la musique donne des émotions incroyables et infinies, finalement.
J'ai eu une émotion, alors, on va dire, dans un cadre moindre. J'étais justement dans une maison de retraite, il n'y a pas très longtemps. Et puis, je jouais plutôt des mélodies enjouées, des choses de la variété. C'était très, très joyeux. Voilà, ça dansait, c'était dynamique.
Ah, ça dansait.
Oui, ça dansait sur les fauteuils. Enfin, c'était... Et puis, les soignants dansaient aussi. C'était très, très joyeux. Puis, à un moment, j'ai voulu jouer alors, l'hymne à l'amour. Edith Piaf, mais juste au violoncelle, sans aucun accompagnement, parce que souvent je m'accompagne d'un petit, de morceaux passés sur des enceintes en plus. Et puis là, c'était violoncelle seule, donc juste quelque chose de très, très intérieur. J'avais envie de leur offrir ça. Et puis, en fait, il y avait, je ne sais pas, une cinquantaine de résidents qui étaient autour de moi. Et ils se sont tous mis à chanter, bouche fermée, comme une prière. Et en fait, ça m'a...
C'en est une.
Et ça m'a énormément touchée. Ça m'a pris complètement de court par surprise. Parce que, voilà, pour moi, j'étais plus dans une optique d'animation. Et là, tout le monde était dans une forme de communion. C'est comme ça que je l'ai ressenti, puisque chacun chantait. Et ça faisait comme un cœur qui est apparu comme ça, de nulle part. Et moi, je l'ai mené un petit peu.
Vous les avez accompagnés, en fait.
Voilà. Et à la fin, je me dis, j'ai plus envie de jouer mes petits airs de variété, parce qu'on était vraiment dans cette intériorité. C'était très beau, très touchant, en tout cas pour moi. Donc, oui.
Est-ce que c'est bien Edith Piaf qui a écrit les paroles?
Oui, c'est Edith Piaf, oui.
Et puis tout le monde les connaît, ces paroles.
Oui, ça a été repris maintes et maintes fois.
C'est devenu un véritable hymne. Effectivement.
Oui, ouais, tout à
même
fait.
Même Johnny Hallyday s'y est attaché, c'était vraiment super.
C'est vrai.
Oui. Et donc, ça s'est produit devant 50 personnes.
C'est ça. Mais c'était inattendu. Et j'aime bien ce côté inattendu parce que on ne sait pas ce qui va se passer en vérité. Et moi, j'aime bien qu'il y ait une interaction. C'est ça qui manque un peu dans les concerts, justement, on va dire plus classiques. C'est que bon, le spectateur vient, il est un petit peu passif, il écoute et puis il repart. On ne le connaît pas, on n'a pas parlé avec lui, on ne sait pas qui il est. Puis on ne l'a même presque pas vu parce que... Avec les projecteurs, on ne voit pas forcément qui est dans la salle. Là,
Vous avez quelquefois des bis qu'on vous demande?
Oui, alors, on va dire que c'est plutôt moi qui les choisis en fonction du moment. Il y a plein de choses, parce que je joue beaucoup de variétés aussi pour les personnes en maison de retraite, parce qu'elles aiment bien ça. Et oui, il y a des bis. Je jouais l'autre jour pour un flirt avec toi,
oh,
Michel
Lepeche.
Et là, voilà, c'était très léger.
Moi, ça serait quand j'étais chanteur.
Quand j'étais chanteur, c'est très bien aussi.
Ah, Michel Delpech, voilà. Il me manque.
Donc, dans un style tout à fait différent.
Et là, les gens se souvenaient de leur flirt.
Ah oui. Ah là, ça danse tout
charmant.
De suite. Oui, c'est très charmant. Oui. J'aime bien cette légèreté.
Twini, je pense que vous reviendrez.
Avec grand plaisir.
J'aimerais beaucoup. En plus, vous m'avez avoué que vous allez quelquefois à Alençon et ma foi, Dreux est sur la route de Paris. Alors, ça me va très bien.
Exactement.
Radio Grand Ciel vous accueillera aussi souvent que vous le voudrez.
Merci beaucoup.
Vous parlerez de vos projets, de vos réalisations passées, de vos... dont je ne dirais même pas les échecs parce que, évidemment, vous n'en avez pas, mais de tous vos succès. Et si jamais les chefs d'orchestre qui nous écoutent et auxquels je fais appel vous appellent vous et vous demandent de venir jouer dans leur orchestre, vous viendrez nous le raconter.
Avec grand plaisir, merci.
Et si aussi, si Jean-Charles Aquaviva, ce jazzman super, veut encore faire des choses avec vous, j'espère que vous viendrez tous les deux dans ce studio et que nous en parlerons.
Avec plaisir également.
Je serai un critique impitoyable. Non, même pas. J'ai beaucoup de difficultés parce que je ne peux pas être critique avec vous. Enfin, il existe des critiques positives. Et dans ce cas-là, ce sont des lauriers que je vous tresse, ma chère. Vous êtes merveilleuse.
Merci beaucoup, Marie-France.
Merci infiniment de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous nous avez dit. Philippe Maillard enregistrait cette émission. Il la réalisera pour vous dans les studios de Radio Grand Ciel. On se reverra bientôt pour une nouvelle émission de Jazz Retro. Au revoir, Twini.
Au revoir, Marie-France. Merci beaucoup.
Et place à Jean-Sébastien Bach. Thank you.
Thank you.